Chapitre 8. Quand, au lendemain de ce dîner, qui devait faire époque dans sa vie, Madame Favoral se réveilla, son mari était déjà debout et, un crayon à la main, il alignait des additions. L'enchantement s'était dissipé comme les fumées du vin de champagne et les nuages des mauvais jours s'amassaient sur son front. S'apercevant que sa femme l'observait, « Cela coûte gras, dit-il d'un ton rogue, de mettre une affaire en train, et il ne faudrait pas recommencer tous les soirs. » À l'entendre, on eût cru positivement que Madame Favoral, seule, à force d'obsession, l'avait décidé à cette dépense qu'il paraissait regretter si fort. Elle le lui fit remarquer doucement, lui rappelant que, bien loin de le pousser, elle avait essayé de le retenir, lui répétant qu'elle augurait mal de cette affaire dont il s'enthousiasmait, et que, s'il voulait la croire, il ne s'aventurerait pas. « Sais-tu ce dont il s'agit ? » interrompit-il brusquement. « Tu ne me l'as pas dit ? Eh bien alors, laisse-moi en repos avec tes pressentiments. Mes amis te déplaisent, et j'ai bien vu quelle mine tu faisais à la baronne de Thaler. Mais je suis le maître, et ce que j'ai résolu sera. J'ai signé d'ailleurs. Une fois pour toutes, je te défends de revenir sur ce sujet. » Sur quoi, s'étant habillé avec beaucoup de soin, il décampa en disant qu'il était attendu pour déjeuner par Saint-Pavin, le publiciste financier, et par M. Jotras, de la maison Jotras et Frères. Une femme adroite ne se fut pas tenue pour battue et eut eu facilement raison de ce despote dont l'intelligence n'était pas le fort. Mais Madame Favoral était trop fière pour être adroite, et d'ailleurs, les ressorts de sa volonté avaient été brisés par l'oppression successive d'une marâtre odieuse et d'un maître brutal. Son renoncement à tout était complet. Blessée, elle gardait le secret de la blessure, baissait la tête et se taisait. Elle ne hasarda donc pas une allusion et il s'écoula près d'une semaine sans qu'elle entendît prononcer le nom de ses hôtes. C'est par un journal qu'avait oublié au salon M. Favoral qu'elle apprit que M. le baron de Thaler venait de fonder une société par action, le comptoir de crédit mutuel, au capital de plusieurs millions. Au-dessous de l'annonce imprimée en énorme caractère, venait un long article où il était démontré que la société nouvelle était en même temps une œuvre patriotique et une institution de crédit de premier ordre, qu'elle répondait à des besoins urgents, qu'elle était appelée à rendre à l'industrie des services inappréciables, que ses bénéfices étaient assurés et que souscrire des actions, c'était simplement tirer sur la fortune à courte échéance. Un peu rassurée déjà par la lecture de cet article, Madame Favoral le fut tout à fait lorsqu'elle lut la liste des membres du conseil de surveillance. Presque tous étaient titrés et décorés de quantités d'ordre, et les autres, les simples roturiers, étaient tous des banquiers, des dignitaires ou même d'anciens ministres. « Je me trompais, » pensa-t-elle, subissant l'ascendant de la chose imprimée. Et nulle objection ne lui vint quand, à peu de jours de là, son mari lui dit « J'ai la situation que je désirais. Je suis caissier principal de la société dont M. de Thaler est le directeur. » Ce fut d'ailleurs tout. De ce qu'était cette société, des avantages qu'elle lui faisait, pas un mot. À sa façon de s'exprimer seulement, Madame Favoral jugea qu'il devait être bien traité, et il la confirma dans cette opinion en lui accordant de son propre mouvement quelques francs de plus pour la dépense journalière de la maison. « Il faut, déclara-t-il, en cette occasion mémorable, savoir, quoi qu'il en coûte, faire honneur à sa position sociale. » Pour la première fois de sa vie, il semblait préoccupé du qu'en dira-t-on et soucieux de l'opinion qu'on aurait de lui dans un quartier où l'opinion est d'autant plus influente que tout le monde s'y connaît. Il recommanda à sa femme de veiller soigneusement à sa mise et à celle de ses enfants et reprit une servante. Il voulut se créer des relations et inaugura ses dîners du samedi où vinrent assidûment M. et Mme Desclavettes d'abord, M. Chapelain l'avoué, le papa Desormeaux et quelques autres. Pour lui, il adopta peu à peu les habitudes dont il ne devait plus se départir et dont la régularité chronométrique lui valut le surnom dont il était fier, de bureau exactitude. Quant au reste, jamais homme à un pareil degré ne se désintéressa de sa femme et de ses enfants. Sa maison n'était pour lui qu'une hôtellerie où il venait prendre son repas du soir et dormir. Jamais il ne songea à demander à sa femme l'emploi de ses journées, ni à quoi elle s'occupait en son absence. Pourvu qu'elle ne lui réclamât pas d'argent et qu'elle fût là quand il rentrait, il était content. Bien des femmes, à l'âge de Madame Favoral, auraient étrangement usé de cette indifférence injurieuse et de cette absolue liberté. Si elle en profita, ce fut uniquement pour obéir à une de ces inspirations qui ne peuvent naître qu'au cœur d'une mère. L'augmentation du budget du ménage était relativement considérable, mais si exactement calculée qu'elle n'en était pas maîtresse d'un centime de plus. C'est avec un véritable désespoir qu'elle songeait que ses enfants auraient à endurer les humiliantes privations qui avaient désolé son existence. Ils étaient trop jeunes encore pour souffrir de la parcimonie paternelle, mais ils grandiraient, leurs désirs s'éveilleraient, et elle serait dans l'impossibilité de leur accorder les plus innocentes satisfactions. À force de tourner et de retourner dans son esprit cette idée désolante, elle se souvint d'une amie de sa mère qui avait rue Saint-Denis un important établissement de lainage et de mercerie. Là était peut-être la solution du problème. Elle se rendit chez cette digne femme et, sans même avoir besoin de lui confesser toute la vérité, elle en obtint divers petits travaux, mal rétribués comme de juste, mais qui, moyennant une sévère application, pouvaient rapporter de 8 à 12 francs par semaine. Dès lors, elle ne perdit plus une minute, se cachant de son travail comme d'une mauvaise action. Elle connaissait assez son mari pour être certaine qu'il s'indignerait, et il lui semblait l'entendre s'écrier qu'il dépensait cependant assez pour que sa femme n'en fût pas réduite au métier d'ouvrière. Mais aussi, quelle joie, le jour où elle cacha, tout au fond d'un tiroir, la première pièce de 20 francs gagnée par elle, une belle pièce d'or qui lui appartenait sans conteste, qu'on ne lui connaissait pas, et qu'elle pouvait dépenser à sa guise sans avoir à en rendre compte. Et avec quel orgueil, de semaine en semaine, elle vit son petit trésor grossir, malgré les emprunts qu'elle lui faisait, tantôt pour donner à Maxence un jouet dont il avait envie, tantôt pour ajouter un ruban à la toilette de Gilberte. Ce fut le temps le plus heureux de sa vie, une halte le long de cette voie douloureuse où elle se traînait depuis tant d'années. Les heures, entre ses deux enfants, s'envolaient légères et rapides comme des secondes. Si toutes les espérances de la jeune fille et de la femme avaient été flétries avant d'éclore, les joies de la mère, du moins, ne lui manqueraient pas. C'est que, si le présent suffisait à ses modestes ambitions, l'avenir avait cessé de l'inquiéter. Jamais il n'avait été question entre elle et son mari de leurs hôtes d'une soirée, jamais il ne lui parlait du comptoir de crédit mutuel, mais il n'avait pas été sans laisser échapper de ci et de là quelques exclamations qu'elle enregistrait précieusement et qui trahissaient des affaires prospères. « Ce Thaler est un rude matin, s'écriait-il, et qui a une chance infernale. » Et d'autres fois, « Encore deux ou trois opérations comme celles que nous venons de réussir et nous pourrons fermer boutique. » Que conclure de là, sinon qu'il marchait à grands pas vers cette fortune, objet de toutes ses convoitises. Déjà dans le quartier, il avait cette réputation, qui est le commencement de la richesse, d'être très riche. On l'admirait de tenir sa maison avec une économie sévère, car on estime toujours un homme qui a de l'argent de ne le point dépenser. « Ce n'est pas lui, bien sûr, qui mangera ce qu'il a !» répétaient les voisins. Les gens qu'il recevait le samedi le croyaient plus qu'à l'aise. Quand M. Desclavettes et M. Chapelain s'étaient bien plaints, l'un de sa boutique et l'autre de son étude, ils ne manquaient pas d'ajouter « Vous riez de nos plaintes, vous qui êtes lancés dans les grandes affaires où l'on gagne ce qu'on veut !» Il semblait d'ailleurs tenir en haute estime ses capacités financières. Il consultait et suivait ses conseils. M. Desormeaux disait « Oh, il s'y entend !» Et Mme Favoral se plaisait à se persuader que, sous ce rapport au moins, son mari était un homme remarquable. Elle attribuait à des préoccupations supérieures son mutisme et ses distractions. De même qu'il lui avait appris à l'improviste qu'il avait de quoi vivre, elle pensait qu'un beau matin, il lui annoncerait qu'il était millionnaire.